Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine qui, chaque dimanche à cette heure-ci, vous le savez, interroge celles et ceux qui pensent le monde. Cette semaine, nous allons sans doute vous faire découvrir un de ces penseurs si précieux pour comprendre le monde tel qu'il est. Il s'appelait Zygmunt Bauman. Il était sociologue et il a inventé des concepts comme la société liquide ou la modernité liquide, par exemple, dont nous allons parler. Notre invitée aujourd'hui, Isabella Wagner, lui a consacré une biographie. Elle publie en outre « Ma vie en fragments », une sélection de textes de cet intellectuel né à Poznan en Pologne en 1925 et qui nous a quittés en 2017. Un homme engagé du XXe siècle qui a dédié sa vie à la pensée. Elle va nous expliquer sa vie et son œuvre en quelque sorte. Voici un nouveau numéro du magazine Idée, réalisé évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Isabella Wagner.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Je le disais, cet homme a inventé des concepts. C'était un homme qui a résumé en quelque sorte aussi l'histoire du XXe siècle.
Oui, il était très très fécond. Il était aussi très très... Il avait un langage qui s'est caractérisé par l'utilisation de métaphores. Donc, les concepts, on le retrouve plein de concepts, mais les concepts les plus connus de Bauman, c'est le concept modernité liquide. Mais le mot liquide, il est devenu le concept en fait en soi, parce que cet adjectif, il est collé avec les autres choses. Donc, on avait
la
aussi
vie liquide, par
la
exemple.
Vie liquide, l'amour liquide, l'amour liquide. Un très, très, très joli ouvrage. Il crée aussi des autres concepts. Certains ont bien pris, les autres un peu moins. Par exemple, le concept auquel je suis vraiment attachée, mixophobia, c'est un concept qui était peu popularisé, mais je pense que Bauman, il a encore des dizaines d'années, si ce n'est pas centaines d'années à venir. Et puis, on va pouvoir les redécouvrir.
On va pouvoir effectivement en profiter ces prochaines années, notamment grâce à vous, parce que vous avez, je l'ai dit, écrit une biographie de Bauman qui est disponible en ce moment en anglais, mais qui paraîtra en français à la fin de cette année 2024.
Oui.
J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que c'est un énorme travail. Dans le livre qui nous intéresse aujourd'hui, « Ma vie en fragments », il s'agit donc de fragments de textes, et vous publiez en quatrième de couverture un extrait de ses propos. Il disait ceci: « Mes critiques disent « Les gens ont besoin de certitude et vous instillez le doute. Ils ont raison. »
Oui, ça c'est tout Bauman. Si vous ne connaissez pas son style de communiquer avec les autres, style d'écriture qui est très très particulier, voilà, c'est-à-dire on trouve qu'il avait cette capacité d'ouvrir les yeux. Il y a plein de personnes qui observent notre société ou qui vivent dans chacun de nous, vit dedans, et on ne comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe. Par exemple, dans ce qu'il disait, la société liquide, tous les échecs, aussi tous les succès, sont attribués à l'individu. Et lui, il montre comment c'est structurel. C'est-à-dire, quand vous avez du mal, vous êtes en chômage, vous ne trouvez pas le travail, vous êtes jeté à l'âge de 50 ans de votre entreprise, etc. etc. Il traduit ce qui vous arrive, pas en psychologisant, en disant c'est votre faute, vous n'avez pas travaillé assez ou vous n'êtes pas assez intelligent. Il montre comment la société fonctionne aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous a fait rencontrer Zygmunt Bauman, Isabella Wagner?
Alors, j'ai m'occupé, et je m'occupe toujours, des carrières scientifiques. Et lui, dans un répertoire des carrières sociologiques ou des carrières de grands penseurs, avait un parcours très, très particulier et une vie fascinante. Une vie tellement fascinante qu'on pourrait faire un super film racontant le XXe siècle à travers d'une seule biographie. XXe et XXIe siècle.
Bien sûr.
Il est décédé en 2017. 2017. D'abord, je voulais faire un chapitre centré sur sa carrière. Et il y avait une très, très grande controverse que j'espère j'ai pu résoudre. Enfin, pour moi, j'ai résolu. Car dans ce pays du Sud, globalement, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique latine ou les pays méditerranéens. En France, un peu moins, mais Bauman, il est connu et il est considéré comme un gourou. Si on peut faire un parallèle par rapport à la visibilité, ce qui est Bourdieu en France, Bauman, il est pour nos collègues dans ces pays-là. On le cite, et puis on le cite en dehors de la sociologie, on le cite en dehors des sciences sociales, on le cite, certaines citations ont passé. Mais nous aussi, en France, on y vient, puisque le président Macron, cet été, fin d'été, il a cité Société Liquide.
C'est une forme de reconnaissance.
Donc, exactement, j'étais étonnée, puisque Bauman, il est fort critique de monde capitaliste, des néolibéralismes, etc. Donc, c'est bien, ça ramène la popularité.
Alors, Isabella Wagner, on va donner quelques repères à nos auditeurs qui ont envie de découvrir Zygmunt Bauman, en disant d'abord que, je l'ai dit dès l'introduction, qu'il est né à Poznan, donc en Pologne, en 1925, et c'est l'itinéraire d'un juif polonais qu'il raconte d'ailleurs dans quelques-uns de ses textes publiés dans Ma vie en fragments. On peut résumer en quelque sorte son itinéraire ?
Oui,
en Pologne, en tout cas, dans un premier
temps.
Oui,
très très souvent, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit la biographie. Très souvent, on disait, mais lui, il était né dans une famille juive, parfois on disait pauvre, etc., ce qui n'était complètement pas le cas. C'est-à-dire, ils n'avaient pas d'argent, mais capital social, il y était. Et la mère avait absolument envie d'échapper à la vie dans les quartiers juifs pour échapper aussi à un antisémitisme. C'est-à-dire, Bauman, il est né dans une ville où il y a la plus petite communauté juive de toutes les villes de Pologne, donc c'est déjà exceptionnel. En plus, sa mère rejette cette inscription dans une école où il subira pas antisémitisme. Il est né et il est dans une école primaire polonaise et là, il est unique enfant juif dans la classe et il subit vraiment des traitements antisémites aussi physiques.
Qu'il raconte d'ailleurs dans quelques-uns
voilà,
des textes.
Voilà, il raconte tout ça et il raconte aussi comment cette mère, qui est une mère très aimante, il avait des parents très chaleureux, donc dans la maison il baignait dans le bonheur et en même temps, en sortant de la maison, c'était terreur, c'était l'angoisse, c'était une vie très très difficile. C'est seulement quand il rentre dans le collège, enfin, à l'âge des 13-14 ans, il passe un examen très très difficile, mais il est brillant, donc il accède dans ce collège. C'est là où il est dans une classe où il y a 4 autres garçons juifs. Donc, il se retrouve dans une petite communauté et là, il intègre Hachomer Hatzair, c'est-à-dire un groupe scout sioniste socialiste. Et là, il découvre des idées de gauche qu'il adhère complètement, puisque ça ramène libération des racismes très profonds qu'il subit.
Et la guerre va les conduire en Russie, en URSS.
Oui, bien sûr. Et comme beaucoup qui étaient chanceux assez pour fuir à temps, ses parents, puisqu'ils ne possèdent pas grand-chose, ils fuient presque immédiatement. Mais il subit quand même la campagne de septembre, c'est-à-dire il voit les bombardements. Il est typiquement un réfugié de guerre. Il sait ce que c'est. Il a 14 ans. Et il voit son père qui est désemparé. Il voit les dénigrements des soldats des Wehrmacht envers son père, etc. Donc, si vous voulez, tous les mécanismes qu'on raconte ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ces situations, dans les premiers mois de terreur nazie en Pologne, il le voit. Il passe par la frontière verte.
La frontière verte, c'est-à-dire
voilà, la frontière verte. Peut-être vous pensez tout de suite au film d'Agnieszka Holland, Green Border, qui vient de sortir il y a un mois en Pologne. C'est exactement dans cet endroit-là où aujourd'hui on a des réfugiés qui rentrent en Europe. Bauman, il fait dans l'autre sens, mais vraiment dans les mêmes marécages, dans les mêmes endroits. Et il raconte dans ce livre-là, vous avez un récit exactement, on peut dire à minute près, qu'est-ce qu'il pense un enfant, enfin c'est une reconstruction, mais qu'est-ce qu'il se souvient qu'il a pensé à ce moment-là, donc l'angoisse.
Alors le jeune garçon, il a une vingtaine d'années à la fin de la guerre, va participer à la libération de la Pologne.
Oui, bien sûr. Il regrette de ne pas libérer Berlin parce qu'il était blessé. Donc, il arrive un peu en retard, mais il participe d'une manière très, très engagée aussi à la construction et à la mise en place des nouveaux pouvoirs en Pologne. Pourquoi ? Parce que ça, c'est pas son choix du tout. Il se retrouve dans un régiment qui est incorporé d'office pour faire une sorte de gendarmerie, on pourrait dire. C'est un corps des armes intérieures pour préserver tout ce qui est l'usine abandonnée par les Allemands, tout ce qui était les gares, etc. Et aussi pour combattre les armées souterraines qui sont là.
Fait du renseignement, non ? Il fait de la...
Oui, mais...
L'accuser d'ailleurs de participer à une police secrète du régime. Parce qu'il faut préciser, moi je disais libération de la Pologne par rapport aux nazis, mais après la libération de la Pologne, il y a l'instauration d'un régime communiste derrière le rideau de fer, comme on disait.
Oui, évidemment. Et c'est un modèle soviétique imposé par Staline. Il faut dire que ça ne se jouait pas vraiment avec la participation des Polonais, puisqu'ils ont subi accords de Yalta, etc. Donc il y a les régimes qui vont se mettre en place. Et Baumann, il était aussi officier politique, parce qu'il était éduqué, il connaissait parfaitement le russe. Mais son engagement, quand il était au lycée, où pour la première fois il avait des très bonnes notes, il était reconnu pour ce qu'il était et pas discriminé parce qu'il était juif. Et c'est là où il croit en communisme. Mais il s'inscrit dans Komsomol. Komsomol, c'est une partie pour les jeunes futurs
communistes.
Voilà. Et à partir du moment où vous adhérez à ça, vous êtes déjà obligé d'espionner. C'est-à-dire, ça fait partie des packages, ça fait partie de votre engagement.
Et alors, il y a une chose extraordinaire qu'il raconte dans le livre, c'est qu'au début, il s'orientait vers une carrière scientifique.
Oui, c'est physicien.
Physicien. Mais les hasards de la vie ont fait qu'il a totalement changé de cap.
Il dit les hasards de la vie. Moi, je ne dirais pas que c'est les hasards de la vie. En sociologue, on peut dire que tout simplement, à Varsovie, juste après la guerre, il n'y avait pas tout de suite le changement. Vous savez, les changements ne se font pas tout de suite. C'est-à-dire, l'université de Varsovie a rejeté son diplôme. Il avait une année et demie qui a passé à l'université de Gorky en physique et il voulait continuer. On lui a dit les diplômes soviétiques, nous, on ne les reconnaît pas, il faut que vous recommenciez à zéro. Et en ces cas-là, il a dit non, merci.
Alors là, il a fait partie de l'élite du régime communiste polonais, jusqu'au moment où on est obligé de brûler les étapes. Il faudra lire votre biographie en français, on peut déjà la lire en anglais, je le répète, jusqu'au moment où il a été expulsé en 1968. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
Oui, pour lui, la vie difficile, ça a été aussi 53, ça a été aussi après 56, au moment où... C'est-à-dire à chaque fois qu'on y a des changements politiques,
en Hongrie,
et il y a aussi, il faut savoir, dans la société polonaise, il y a les mouvements antisémites qui surgissent pour une raison ou pour une autre, soit de la part des pouvoirs, soit de la part des sociétés, etc. Ça diverge et lui, à chaque fois, donc, il est ciblé. Et en 68, c'est définitif, lui qui est avec des autres penseurs, partisans, pas du tout de renverser le marxisme, mais de l'instaurer, c'est-à-dire instaurer quelque chose qu'on appelait marxisme avec les visages ouverts, c'est-à-dire...
Un visage humain
humain ou marxisme ouvert. Ouais. Ça s'appelait comme ça. Il y avait deux notions. Et en fait, il pense qu'on peut réparer la partie de l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne quitte pas la partie. Il veut la réparer de l'intérieur, combattre la bureaucratie, etc., corruption, etc. Mais évidemment, il s'est fait chasser. Et l'outil pour chasser tous ces mouvements contestateurs, c'est l'antisémitisme. Puisque beaucoup des intellectuels engagés sont perçus comme les juifs, sont stigmatisés. Et là, on ne va pas dire juifs, on va dire sionistes. Et il y a une purge. Plus de 20 000 personnes à ce moment-là. Et c'était vraiment l'élite intellectuelle et artistique polonaise qui est partie.
Il va se réfugier en Israël,
puisque
il va passer 3 ans.
Oui, puisque pour partir de la Pologne à ce moment-là, il fallait dire « je vais en Israël », puisque c'était l'unique possibilité. Plein de gens partaient ailleurs. Mais une fois qu'ils sont allés à Vienne, c'était le premier pas, il a dit « on va en Israël ». Donc, ils sont allés en Israël, ce qui disait pour rendre au pays qui nous a aidés de sortir, parce qu'il y avait des engagements financiers, etc., etc. Et aussi, il faut dire qu'il a cru. Il a cru vraiment très fort. Il a milité pour un pays à deux peuples, dans une partie des ouvriers arabes et juifs
en même temps. Un État binational.
Tout à fait, binational, démocratique, etc. Oui. Et au moment où il a vu que d'un côté, politiquement, c'était difficile, que là-bas, la paix, ça ne sera pas possible tout de suite, probablement. Et de l'autre côté, intellectuellement, il était bloqué par la sociologie en place qui était très parsonienne, donc un certain mode américain capitaliste. C'était pas du tout sa sociologie. Donc, il quitte et il va à Leeds.
On va revenir sur sa notion de la sociologie parce que rien que ça, ça mériterait une émission. Isabella Wagner, Alors, donc il est allé en Angleterre et c'est là que nous allons pouvoir commencer à parler de ses travaux, même s'il a évidemment écrit avant et travaillé avant. Je vous propose de l'écouter à la fin de sa vie. Il avait alors 80 ans à peu près, c'était en 2005. Il était interviewé sur France Culture, la radio française France Culture, et le journaliste qui l'interrogeait lui a demandé combien de livres il avait écrit à l'époque et pourquoi il avait une telle vitalité.
I can't answer either of the questions. I think I
Je ne peux malheureusement répondre ni à l'une ni à l'autre de vos questions. Je pense avoir écrit quelque chose comme 35 à 40 livres. Je ne suis pas sûr du nombre exact. Et quant à la source de ma vitalité, je n'en ai aucune idée.
As vital as I would like to be, because however hard I try.
D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être aussi dynamique que j'aimerais l'être. Car malgré tous mes efforts, la quantité de mystère dans mon esprit ne fait que s'accroître au fil du temps. Plus je m'efforce de m'expliquer le cours du monde, plus il y a des points sur lesquels bute mon entendement. Voilà ce qui est probablement la réponse la plus juste à votre question sur la source de vitalité. Une grande curiosité frustrée. La curiosité est bien là. Seulement, son intensité surpasse largement mes propres efforts intellectuels. Étant donné la liquidité de la société contemporaine qui ne cesse de se modifier, sa globalisation chaotique et le fait que je sois seulement d'une façon négative en attente d'une libéralisation positive, étant donné tout ça, j'espère que la quantité de mystère continuera de s'accroître et je ne crains pas de perdre ma vitalité.
Que ses propos sont magnifiques, sont des propos d'intellectuel à la fois modeste et prônant la curiosité insatiable, sa curiosité frustrée.
Oui, il était fascinant. C'est pour ça probablement que les jeunes l'aimaient tant, parce qu'il était très jeune. C'était un esprit très, très jeune. Et puis, pas du tout un prof qui vient, qui sait tout, un peu blasé, etc. Et c'était pas du tout ça. Par contre, il changeait. Il avait toujours des objets d'intérêt nouveaux. Et puis, il changeait souvent. Et ce qu'on retrouve dans la dynamique de beaucoup de personnes qui travaillent dans la recherche, hein, ces types de personnages, on le voit dans les autres disciplines, etc. Donc ça je retrouve ces caractères. Quand il parlait de cette société qui n'arrête pas de le fasciner, il disait toujours « je suis pessimiste et optimiste, pessimiste à court terme », parce qu'il voyait que ce changement majeur qu'il a attendu, il ne venait pas, c'était de pire en pire. Et puis il disait « je suis optimiste à long terme, je me demande quand est-ce que ce long terme va arriver, sa prédiction de meilleur temps ».
Peut-on dire que Zygmunt Bauman est d'abord et surtout un sociologue, Isabella Wagner?
Oui, vous avez entendu, il dit, je ne sais plus combien de livres j'avais écrit.
Ça vous a fait rire d'ailleurs.
Oui, parce que début des 2000, c'est vrai que ça a été 30-40, il ne savait pas très bien. Et après, on dit que c'est 87, 88. Celui-ci, on peut compter aussi, parce qu'il y a encore des choses, des manuscrits qui sont en train de sortir, les choses posthumes, exactement comme ces livres, Ma vie en fragments. Hein. C'est des choses que le public va découvrir. Hein. La famille a légué tous les archives à l'université de Leeds, donc on a le matériau à travailler, c'est très précis.
Leeds, qui est une grande ville de Grande-Bretagne.
Oui, c'est une université où il a passé toute sa dernière partie de sa carrière, 20 ans.
Donc on peut le définir comme sociologue.
Absolument. Il était sociologue jusqu'à ce qu'il termine son travail à l'université. Et vocabulaire est sociologique, les références sont sociologiques. Et il est connu dans les milieux des sociologues avec son livre « Modernité et Holocauste ». Il est connu aussi beaucoup dans les milieux des historiens qui travaillent sur le XXe siècle. C'est un livre très, très important. Il avait des plus grands prix en sociologie pour ce livre-là. Après, il va à la retraite. Et il a un passage où il dit « la retraite, il était fasciné par la photographie. Il a d'ailleurs fait des très, très magnifiques photos d'art. Et tout d'un coup, il commence à écrire autrement. Il n'a plus d'obligation d'être ce professeur, cet intellectuel sérieux britannique. Et il crée une nouvelle, un langage différent de communication. Il a beaucoup de références au cinéma, beaucoup de références aux séries télévisées, aux journaux, même People, pour justement ouvrir les yeux à qu'est-ce qui se passe dans ce 21e siècle. Et là, c'est avec sa maison d'édition, Polity. Ils mettent sa personne en priorité, en avant. Et là, c'est Modernité liquide et la série liquide qui sort, mais pas seulement, c'est Bauman, c'est leur écrivain. Et ils communiquent avec les gens, pas avec les intellectuels. Là, c'est.
On va y revenir. On va y revenir parce qu'il y a des passages assez cinglants sur son milieu intellectuel. Quand on a dit qu'il était sociologue, on n'a rien dit, en quelque sorte. En tout cas, je n'ai rien dit, Isabella Wagner, parce qu'il avait sur la sociologie des idées très précises et il a évolué par rapport à la sociologie. Dans un texte qui date de 1997, il dit ceci, il écrit ceci. La sociologie, la science sociale, entre guillemets, à quel moment l'espoir de voir cette discipline accoucher d'innovations fructueuses a-t-il laissé place à un sentiment de supercherie? Est-il devenu une supercherie consciemment pratiquée? Et si oui, quand? C'est un constat d'échec.
Oui, il est très lucide, mais parce qu'aussi il a pu passer d'un système vers l'autre système. C'est-à-dire qu'il a été éduqué, socialisé avec les milieux sociologiques au moment où la sociologie était l'outil d'État en Pologne. Ça, il faisait les plans, comment développer la société, comment la faire changer, faire la transition vers le communisme. Et les sociologues ont fait partie de ceci. Oui. En plus, en Pologne, quand il y avait toujours les controverses et les traditions sociologiques d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient très, très riches, et c'était l'unique pays dans l'Europe de l'Est où la sociologie a survécu les purges staliniennes, si je peux dire, parce que dans les autres pays, il n'y avait pas telle sociologie. Donc ici, on a un terreau très, très proliférique pour croisement des différentes sociologies françaises, anglaises, britanniques, américaines. On lit tout en Pologne. On lit tout ce qu'on peut lire. Et ce qu'on ne peut pas lire, on lit aussi. Bauman, il peut lire les livres interdits puisqu'il est dans le parti, il a l'accès aux livres interdits. Du coup, il fait souvent les traductions des ouvrages de l'Ouest vers les Polonais pour que les sociologues qui ne peuvent pas lire ces livres qui sont interdits puissent quand même trouver quelque chose.
Et il a changé, Isabella, de conception dès l'instant où il est passé à l'Ouest.
Non, ce n'était pas comme ça tout de suite. Je pense qu'il a pris vraiment de recul. Déjà en Pologne, en 1956, on a les majeurs retournements et on voit. Et là aussi, il était très inspiré par les idéologies et la pensée de Gramsci. Donc Gramsci, marxisme ouvert, etc. Donc il voit la sociologie plus comme des lunettes pour regarder et comprendre notre société, le monde.
Isabella Wagner, nous allons écouter un peu de musique avant de nous pencher sur l'œuvre, sur cette notion de modernité liquide, avec une chanson de Stand High Patrol qui s'intitule « Pensée monumentale », ça date de cette année 2024.
Il reste quelque chose que je ne saisais pas. Est-ce que tu peux me tenir la main? Les battements de mon cœur qui s'accélèrent. Il n'y a plus de limite à notre univers.
Je vous rappelle que vous écoutez le magazine Idée et que nous parlons du grand sociologue polonais Zygmunt Bauman grâce à notre invitée Isabella Wagner. Cette chanson s'intitulait « La pensée monumentale ». Ça va bien avec Zygmunt Bauman ?
La pensée monumentale, certainement. Par contre, si c'était le caractère qu'il fallait rendre avec la musique, c'était tout à fait manqué. Puisque avec Bauman, il aurait fallu faire un rock and roll parce qu'il était très, très rapide.
Alors, je voudrais que nous parlions de son œuvre, que nous évoquions son œuvre grâce à vous, avec d'abord cette notion donc de modernité liquide. Et là, je vous propose de l'écouter à nouveau, toujours en 2005. Écoutez ce qu'il dit quand on lui a posé la question, on lui a demandé ce qu'était pour lui la modernité liquide.
Et
voilà le point essentiel. La caractéristique prédominante de la modernité liquide, c'est justement la crise de la notion du long terme. Je crois que la hiérarchie des valeurs qui plaçait en tête durée et tradition a été inversée.
Now at the top of the hierarchy of values, while solidity, durability,
aujourd'hui, le temporaire trône au sommet de la hiérarchie des valeurs, tandis que les idées de solidité, de durabilité et de long terme présentent des aspects menaçants. Parce qu'elles impliquent une planification et des structures de longue durée, susceptibles d'être suicidaires ou tout au moins très dangereuses dans notre conjoncture actuelle.
Under conditions in which we are now.
Alors c'est une conception, un concept, Isabella Wagner, qui lui est venu assez tardivement, disiez-vous tout à l'heure,
cette
notion de modernité liquide.
Oui, il a communiqué là-dessus assez tardivement et on peut voir les influences et quelque part, puisqu'il les donne d'ailleurs, il cite Encyclopédie Britannica dans l'ouvrage Modernité liquide et il fait la référence au concept de physique. Donc ça vient quelque part, ça peut venir de ses études de physique, des pensées, en tout cas des pensées telles qu'il a été éduqué dans sa jeunesse, mais aussi par rapport au monde social, les termes liquides, il a apparu, c'est ce que j'ai trouvé, et je n'ai pas trouvé la trace où Bauman dit « j'ai lu ça et c'était mon idée », parce que parfois on a des idées après les lectures, mais on ne les voit pas.
Cette modernité liquide, c'est un petit peu ce qu'il appelait avant la post-modernité, non ? C'est-à-dire ce choix.
Oui, c'est les caractéristiques, c'est que tout ce qui était solide, toutes les structures temporaires, mais aussi les structures d'institutions.
C'est-à-dire l'État, l'Église,
exactement,
tout ce qui
la famille,
fondé,
le travail, etc. Et tout ça part en liquidité. On change de travail, on change de religion, on change des membres des familles, etc., etc. Donc ça rend très fragile les liens sociaux. Et aussi, on a des engagements d'État, etc., etc. Mais la première fois, je voudrais juste mentionner, la première fois qu'il a lu ça, et c'est venu, enfin, la première fois on peut trouver, c'était un ouvrage publié en 62, et ce sont des chroniques des ghettos de Varsovie, où on observe qu'est-ce qui se passe quand la population juive est mise dans, la, dans les territoires ghettos, la population qui était non-juive, elle est mise en dehors des territoires des ghettos, les nazis commencent à organiser la terreur, et Ludwig Landau, auteur de ces mots, il dit « tout est devenu liquide ». Et c'est une phrase très très forte pour rendre ces chaos et cette complètement rupture entre ce qui était hier et ce qui était stable, les maisons, les quartiers, la vie, est devenue tout de suite complètement part en miettes et on ne sait pas comment on va vivre dans une semaine ou même demain.
Alors la perspective de faire cette émission m'a donné envie de lire Zygmunt Bauman, grâce à vous Isabella Wagner. Je propose d'écouter un extrait, c'est le tout début de son livre « La vie liquide » lu par Joe Farmer.
La vie liquide et la modernité liquide sont intimement liées. La vie liquide est celle que l'on a tendance à vivre dans une société moderne liquide. Une société moderne liquide est celle où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu'il n'en faut au mode d'action pour se figer en habitude et en routine. La liquidité de la vie et celle de la société se nourrissent et se renforcent l'une l'autre. La vie liquide, tout comme la société moderne liquide, ne peut conserver sa forme ni rester sur la bonne trajectoire longtemps.
C'est le règne, dès lors, de l'instabilité.
De l'instabilité, des flexibilités, quand on nous dit que c'est quelque chose qui est très attractif, n'est-ce pas? Donc c'est toute une ère, ce qu'on appelle néolibérale, dans beaucoup de pays, un nouveau langage, un nouvel style de vie, et individualisme aussi, parce que qui veut dire flexible, ça veut dire aussi, c'est toi-même que tu regardes ton capital, tu changes le travail comme ça te convient pas, on ne pense plus l'équipe, on ne pense plus les collectifs, et voilà, c'est ce qui est la vie liquide.
Et dans cette conception économique, l'État est un problème, donc on essaie de limiter le rôle de l'État, et selon Zygmunt Bauman, dès lors, l'individu est en quelque sorte livré à lui-même.
Oui, mais c'est pas seulement, c'est une conception économique qui rend précaire la vie des individus et renvoie, comme je l'ai dit, la faute, l'erreur, de l'échec à l'individu et qui retire complètement responsabilité. Et l'État, il est quelque part engagé dans cette, si vous voulez, liberté, ben voilà liberté, mais nous, on se retire et on ne s'engage plus à accompagner ceux qui ont besoin d'un accompagnement.
En résumé, la vie liquide est précaire, vécue comme des conditions d'incertitude constante. Les soucis les plus vifs et persistants qui hantent cette vie sont des peurs. Être pris en flagrant délit de sieste, ne pas tenir le rythme des événements au mouvement constant, se faire distancer, laisser passer une date limite de consommation, avoir sur les bras des biens qui ne sont plus désirables, rater l'instant qui nécessite un changement de cap avant d'arriver au point de non-retour. La vie liquide est une succession de nouveaux départs. Or, pour cette même raison, ce sont les dénouements rapides et indolores, sans lesquels de nouveaux départs seraient inconcevables, qui tendent à constituer, pour la vie liquide, les moments qui la mettent le plus au défi, ses sources de grandes migraines. Parmi les arts dont la vie moderne liquide requiert la maîtrise et les compétences nécessaires pour les pratiquer, savoir se débarrasser des choses prend le pas sur leur acquisition.
Et donc, la consommation, la société de consommation est dès lors prédominante.
Absolument, parce que non seulement on doit se débarrasser puisqu'on doit être mobile, on doit être flexible, mais aussi on doit désirer toujours plus. Les derniers téléphones.
Il faut qu'il y ait l'insatisfaction permanente.
Absolument. Et c'est comme ça qu'on nous détourne des engagements et des révoltes. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire, en essayant de vouloir toujours plus, mieux, etc., on se concentre sur nos propres désirs et on ne fait pas même les constats de nos échecs et du fait que faire la sieste, c'est peut-être bon pour la santé. D'ailleurs, c'est peut-être pas un crime si vous êtes obligé de vous lever très tôt pour aller au travail et terminer très tard, etc., etc. Donc, ça montre tout à fait des deux côtés. C'est-à-dire, on s'est laissé séduire par ces modes de vie et par cette soi-disant accessibilité au bien, parce que tout le monde n'a pas d'accès, mais tout le monde peut rêver. Et ça nous désolidarise n'est-ce pas, puisqu'on est en compétition on est individu, et ça nous empêche qu'on s'organise pour faire fonctionner la société d'une autre façon, c'est-à-dire peut-être d'avoir une division des ressources, des fruits des travail différentes qu'on a actuellement. Donc ces fameux 99% 1% est juste un mot pour dire que, je ne sais pas, est-ce que nos éditeurs et éditrices se rappellent des mouvements Occupy qui étaient très populaires, voilà. Et là, Bauman, il était l'un des penseurs, enfin, il était pris par ce collectif, par ce mouvement, comme l'un des penseurs qui mettait en avant cette division.
Là. Et là, il met en avant la dérivation du divertissement, en quelque sorte. Il dit que dans cette société, la population oublie les vrais problèmes et se réfugie dans des faux problèmes. Et vous, un culte à ce qu'il appelle la célébrité, à la célébrité tout simplement. Et il cite une phrase que je trouve astucieuse, formidable, sur la définition d'une célébrité. Qu'est-ce qu'une célébrité ? Il reprend une phrase d'un penseur qui s'appelle Burstein, Daniel G. Burstein, qui disait ceci. Qu'est-ce qu'une célébrité ? Eh bien, la célébrité est une personne connue pour être célèbre.
Exactement, et c'est tout Bauman, la capacité de formuler des définitions très claires et très justes.
Et il explique, il va très loin dans les détails, il dit que cette célébrité, c'est ce qu'on appelle les people et d'autres choses du genre, constitue une espèce de glue qui rapproche, c'est ce qu'il écrit.
Oui, c'est glue, mais c'est un glue artificiel. Enfin, c'est quelque chose qu'on a besoin de rêver et qu'on s'écolle là-dessus. Et c'est très éphémère aussi. Parce qu'on peut dire célébrité liquide, on sait comment ça marche. Il a été fasciné aussi. C'était un très, très grand cinéphile. Avec sa femme, ils ont été, dès les débuts, quand ils se sont connus, sa femme, elle avait l'accès aux films qui étaient interdits en Pologne, etc. Donc, ils étaient au courant toujours de l'art cinématographique. Et ils étaient très, très passionnés par cette chose-là. Donc, célébrité, c'est aussi ça.
Ou alors sur les dérivatifs, il écrit toujours dans La vie liquide. Nous nous plongeons dans la recherche des 7 signes du cancer ou des 5 symptômes de la dépression ou dans l'exorcisme du spectre de la tension artérielle et du taux de cholestérol élevé, du stress ou de l'obésité. En d'autres termes, nous cherchons des cibles de remplacement sur lesquelles déverser le surplus de peur qui se voit interdire l'accès à ces débouchés naturels et nous trouvons ces expédients dans les précautions raffinées prises à l'égard de la fumée de cigarette, de l'obésité, du fast-food, de la sexualité sans préservatif ou de l'exposition au soleil.
Oui, c'est très très juste, c'est un constat. Par contre, je ne sais pas, est-ce qu'on voit à partir de ces mots-là que vous venez de citer et de tout ce qu'il a écrit, qu'il ne porte pas les jugements de valeur, il ne vous condamne pas que vous
êtes comme
ça.
Non,
c'est
constate,
ça qui
ne juge pas.
Exactement, et ça c'est quelque chose qui nous permet justement d'ouvrir les yeux.
Et il fait un lien par exemple entre le sentiment d'insécurité qui est assez entretenu souvent et le développement des 4x4, des grosses voitures
4x4. Absolument. Absolument.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Euh, Vous écoutez RFI et nous nous intéressons au sociologue Zygmunt Bauman dans ce numéro en compagnie de notre invitée Isabella Wagner qui lui a consacré une biographie qui sera bientôt traduite en français à l'automne et qui nous propose Ma vie en fragments, une sélection de textes qui eux sont publiés aux éditions Premier Parallèle. Isabella Wagner, vous citiez tout à l'heure d'autres concepts de lui et notamment un qui vous tenait à cœur. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ?
Oui, mixophobia, c'est la peur de l'autre, la peur des mixités. Et il a développé ces concepts-là, vous le voyez, dans un livre qui a d'ailleurs été publié aussi en France et aussi dans la même édition chez Premier Parallèle.
Excellent éditeur.
Et voilà, et c'est L'étranger à notre porte. Et c'est le livre qui a été la réaction à ce qu'on appelait justement d'ailleurs la crise d'immigration, la crise migratoire, c'est comme ça. Et il montrait la lecture très sociologique, mais avec les mots très très accessibles, comment nous on réagit aux gens qui arrivent chez nous et comment au lieu d'ouvrir la porte et de se mélanger, on a peur de se mélanger, on ne veut pas se mélanger, on rejette. Et il a expliqué tous ces mécanismes-là. Et je trouve que dans ce terme-là, c'est un concept absolument de l'avenir qu'on va se saisir, j'espère, les chercheuses et chercheurs en sciences sociales, pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, alors que, économiquement parlant, démographiquement parlant, nous avons besoin de cette migration, de cette immigration qui arrive.
Est-ce qu'il était inquiet à la fin de sa vie avec ses constats sur cette société un peu déliquescente en attendant sans doute l'apparition d'autres sociétés ?
Inquiet de notre réaction, je dirais plutôt. Mais est-ce qu'il était surpris ? Parce que inquiétude, c'est certainement, mais est-ce qu'il était surpris ? Je ne pense pas. Et comme je le disais, il était pessimiste à court terme et optimiste à long terme. Seulement, je manquais de demander c'est quoi long terme et c'est quoi court terme, n'est-ce pas ? Il mobilise la pensée de Gramsci qui dit qu'on est entre deux périodes, c'est-à-dire c'est là où on a une période de chaos, donc il faut attendre que ça, enfin, il faut faire à ce que ça se finisse.
Et sa réflexion porte aussi sur la notion de commun. Que reste-t-il de commun dans une société liquide ?
Et ça, c'est une réflexion qui est très très pessimiste, puisque on est très seul. Et il parle beaucoup de solitude aussi, que la société est atomisée. Et donc, on souffre énormément de cette solitude.
Je reviens à sa vie pour conclure, comme nous l'avons fait pour ouvrir cette émission. Isabella Wagner, c'est une vie, et je reprends le terme romanesque.
Oui.
De ce petit garçon né à Poznan, qui a vécu l'avant-guerre, la guerre en Pologne, l'antisémitisme, et on sait à quel point l'antisémitisme était fort en Pologne, son exil en URSS, son retour en Pologne après, son expulsion de Pologne en Israël et sa vie en Occident, en Grande-Bretagne.
Et après, son retour en Pologne après 80... Il était d'ailleurs 88. Avant que les murs s'écroulent, il arrive en Pologne. Et en 2013, définitivement, il décide de ne plus retourner à cause d'extrême droite et à cause des hostilités qui sont vraiment très graves. Donc, en connexion avec les mouvements racistes d'entre-deux-guerres. Donc, vous voyez, la continuité, pour lui, c'est un grand échec des projets démocratiques ou les projets autres de la société. Il voit un retour, d'où le livre Rétrotropia, aussi apparu récemment en français, où il explique comment on revient vers les années 30 et pour lui, c'est source d'une très très grande angoisse. Il a très peu publié sur son retour dernier en Pologne, mais c'est quelque chose qui est aussi dramatique.
Ce qu'il faut préciser, c'est que les textes autobiographiques que vous publiez, Isabella, dans Ma vie en fragments, il les avait écrits d'abord pour sa famille.
Une partie. Oui, c'est une partie pour sa famille. Et c'était en parallèle quand il a vu qu'est-ce que sa femme a fait comme un livre fantastique, d'ailleurs aussi apparu en français.
Sa femme qui a joué
sa
un rôle.
Sa femme Yannine Bauman, très important.
Dans ils ont vécu ensemble.
Ils ont vécu ensemble, c'était 61 ans. Et c'était un couple fusionnel, une très très belle histoire d'amour et d'amour intellectuel, d'une amitié profonde aussi. Et elle était écrivaine aussi. Et elle a écrit deux ouvrages autobiographiques, l'un qui raconte sa vie dans les ghettos et en dehors des ghettos pendant l'occupation allemande, et le second livre qui est extraordinaire aussi, qui raconte la vie dans une Pologne communiste, dans une Varsovie dans les années 50-60 et leur départ. Et donc, oui, il pensait à deux, on peut dire. Donc, ces textes qu'on publie dans cet ouvrage-là, dans Ma vie en fragments, en partie, c'est l'autre histoire, c'est-à-dire la mère a raconté son histoire de la guerre et des parents, des grands-parents, etc., rapidement. Donc, il s'est confié aussi. Donc, c'est quelque chose de très, très privé. Donc, c'est un Baumann qu'on ne connaît pas du tout, d'où vraiment l'atout majeur de son livre. Et en plus, il y avait d'autres textes que Baumann il écrivait pour les journaux polonais, pour les journaux d'opinion intellectuelle, etc. Ce sont des textes qui ne sont pas centrés sur la politique polonaise. Ceci dit, il y en a dedans, partie européenne aussi. Donc, c'est un patchwork. Moi, j'appelle ça patchwork. Mais c'est un Baumann qu'on ne connaît pas de ses grands ouvrages. C'est ça qui est vraiment un atout de ses livres. C'est un autre Baumann.
Comment est-il ressenti aujourd'hui en Pologne ? Est-ce qu'on l'étudie ou est-ce qu'il est toujours un peu sulfureux, dirais-je ?
Ça dépend, parce qu'il y a une partie des baumanistes qui sont très engagés. Et évidemment, dans des majeures universités, vous avez des personnes qui sont connues comme baumanistes, qui travaillent avec sa pensée. Aussi, dans des départements des cultural studies, la dernière étape de son activité intellectuelle, il se développe là. Dans quelque chose que nous, en France, on a peu. Et par contre, il y en a une hostilité qui est très, très importante quand même. Oui. Oui, même dans le monde intellectuel.
Pour quelle raison ?
Pour les raisons de son passé, parce que... Et moi, j'avais de l'espoir que mon livre va changer beaucoup, parce que j'explique qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui était de cet engagement, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'être engagé. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? C'est ce qu'on lui reproche ? Est-ce que c'est factuel ? C'est comment ça a été ? Et je pense qu'on a du mal à changer notre avis. C'est tout simplement ça.
Merci Isabella Wagner. On attend donc la traduction en français de votre biographie qui est disponible déjà en langue anglaise aux éditions Politi et sous le titre « Ma vie en fragments ». Vous avez publié une sélection, une mosaïque, un patchwork, dites-vous, de textes de Zygmunt Bauman, donc aux éditions Premier Parallèle. Merci.
Merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez ce numéro et toute la collection de ce magazine sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à cette heure-ci pour de nouvelles idées, bien sûr. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde.